Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme en ce début de week-end. Vous le savez, nous créons chaque samedi dans Nous Voilà Bien une bulle de bonne humeur et de conseils pratiques de 9h15 à 10h sur RTL. On ne déroge pas à la règle. C'est parti pour le sommaire. Elle traque les dettes et certaines d'entre elles n'hésitent pas à recourir à des méthodes contestables. Quels sont nos droits face aux sociétés de recouvrement ? Armelle Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL, nous aide à nous défendre. Alors que le Salon international de l'agriculture a été annulé pour des raisons sanitaires, RTL continue de soutenir l'agriculture française et de mettre en lumière le travail des hommes et des femmes qui font vivre nos territoires et notre agriculture. C'est pourquoi on s'intéresse cette semaine aux labels alimentaires. Comment s'y retrouver ? Harry Christodoulou, fondateur de SIGA, application d'évaluation des aliments, nous aide à y voir plus clair. Il est l'une des viandes préférées des Français et a marqué de son sceau de nombreux déjeuners dominicaux de notre enfance. Comment bien choisir et cuisiner le poulet ? Ligori Lecomte, chef du site cuisineaz.com et auteur culinaire, nous dévoile toutes ses astuces.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Fais pas le malin dans ma messe, c'est son message rimétaire. On va te régler, fais pas l'œuf.
Armelle Lévy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce samedi matin. Armelle, vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL. C'est quoi une société de recouvrement ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot qui fait peur ?
Oh oui, il y a de quoi avoir peur, c'est vrai. Une société de recouvrement, en fait, c'est une entreprise qui se charge d'aller réclamer les impayés. Normalement, si vous ne payez pas vos factures d'électricité ou un crédit, le service contentieux interne de la banque ou de l'opérateur va vous envoyer des relances. Et c'est seulement dans un second temps, quand l'impayé est plus durable ou plus critique, que la banque ou le fournisseur d'énergie va confier la mission d'aller récupérer l'argent à une société extérieure. La société de recouvrement est alors mandatée au nom de la banque ou du fournisseur d'énergie pour aller récupérer ses sous. Alors ça, c'était le cas classique, on va dire. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène qui a le vent en poupe, c'est la revente de créances. Les banques se débarrassent de tous leurs crédits impayés, elles se disent qu'elles ne vont pas en revoir la couleur, que ces crédits ne seront pas remboursés. Donc elles revendent leurs crédits impayés à vil prix à des sociétés de recouvrement qui les achètent. Elles deviennent ensuite le créancier du consommateur. La société de recouvrement va alors chercher à récupérer l'argent pour son propre compte et c'est là où on constate le plus d'abus avec des méthodes particulièrement intimidantes et agressives. Et ce marché des crédits impayés est particulièrement juteux pour les sociétés de recouvrement. Elles ont engrangé 7 milliards d'euros l'année dernière en France et ce marché devrait même dépasser les 10 milliards d'euros cette année.
Et si on reçoit une demande de paiement, il faut s'en acquitter le plus vite possible en fait ?
Non, non, non. Alors surtout pas, Flavie.
Ah bon ?
Non, il ne faut pas se précipiter. D'abord, vérifiez bien que vous n'avez pas déjà payé cette somme. Je pense au paiement par chèque. Si vous avez déjà envoyé le chèque, vous pouvez leur indiquer qu'ils vont le réceptionner. Il peut y avoir des délais. Et aussi, il faut vous assurer que la somme est réellement due. Si vous en avez déjà réglé une partie, il ne faut pas tout payer. Et toujours, pour être sûr, n'hésitez pas à demander la décomposition des montants qui sont réclamés, parce que parfois, c'est un vrai parcours du combattant pour y avoir accès. Mais j'insiste, assurez-vous de payer uniquement ce qui est réellement dû et pas davantage.
D'accord. Et il y a des frais qui s'ajoutent à la somme demandée ?
Non, justement, les frais supplémentaires sont interdits. Les services de la répression des fraudes ont bien alerté là-dessus. La société de recouvrement est payée par la société qui la mandate pour aller récupérer les sous, donc elle n'a pas le droit de vous facturer des frais supplémentaires. En revanche, par exemple, pour un crédit à la consommation, si votre contrat prévoit des pénalités de retard et que vous avez raté une échéance, là, vous devez les payer à la banque. Mais ce n'est pas la société de recouvrement qui va vous réclamer des frais supplémentaires.
Mais il est possible donc de contester la somme réclamée ?
Oui, si vous avez recalculé de votre côté et que la somme n'est pas due, vous pouvez la contester. Il ne faut pas la payer. Même chose si la dette n'existe plus. Ce qu'on appelle les dettes fantômes, c'est la spécialité des sociétés de recouvrement. 60% des litiges reçus par l'association de consommateurs UFC que choisir portent sur des crédits dont l'existence ne peut pas être démontrée ou qui ont déjà été remboursés ou qui ne peuvent plus être réclamés. Et 14% sont vraiment des dettes fantômes, des dettes qui ont été effacées par la commission de surendettement ou des dettes qui n'existent plus.
Mais il y a un délai de prescription d'une créance ?
Oui, la dette n'existe plus passé un certain délai. Ce délai varie en fonction du type de dette. Pour les crédits à la consommation, la prescription est de 2 ans, par exemple. Si une société vient vous réclamer un prêt qui datait de 2002, à l'époque vous aviez des difficultés, vous n'avez pas payé depuis 2005, eh bien si aujourd'hui une société de recouvrement vient frapper à votre porte en vous demandant les 1500 euros d'impayés, légalement, vous n'avez pas à payer cette dette, elle est prescrite. Et comme la banque l'avait rangée dans ses placards, elle l'a revendue aux sociétés de recouvrement avec les autres crédits plus récents.
Et quels sont les moyens d'action d'une société de recouvrement ? Parce qu'est-ce qu'elle peut nous astreindre au paiement qu'elle réclame avec, vous parliez tout à l'heure de méthodes intimidantes, la mise en demeure, la saisie des biens, tout à
fait. Non, c'est ce qu'elle veut vous faire croire. Hein. Mais la société de recouvrement en tant que telle n'a aucun pouvoir. Elle ne peut faire que du recouvrement amiable. Donc, elle ne peut pas faire davantage.
Alors, donc, en fait, c'est que de la pression, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Elle va vous mettre en demeure de rembourser par courrier, avec des logos parfois qui ressemblent à celui des huissiers. Mais non, ce n'est pas parce que vous recevez un courrier de la société que vous devez la régler tout de suite et qu'on va vous enlever vos biens. Elle n'a pas le droit de saisir vos biens. Ce qu'elle peut faire, en revanche, mais c'est coûteux pour elle, c'est de vous emmener en justice. Donc, la seule chose que vous risquez, c'est un procès pour récupérer l'argent. Mais ça, c'est rare. Elle ne peut pas vous forcer à lui donner de l'argent et encore moins à saisir vos biens.
Et franchement, il existe des abus. Parfois, il y a bien des méthodes d'intimidation, il y a du harcèlement.
Ah oui, non, mais c'est affreux.
Difficile pour le consommateur. Hein.
Vraiment, oui. Harcèlement téléphonique, appel incessant, plusieurs fois par semaine pendant des mois, chantage à la délation. L'UFC Que Choisir s'alarme d'avoir reçu 15% de signalements supplémentaires l'an dernier sur des pratiques délétères. Des sociétés de recouvrement appellent les personnes endettées. Elles les menacent d'appeler leurs enfants, leurs voisins pour les inciter à payer. C'est vrai, elles vont même jusqu'à appeler les enfants pour réclamer le paiement de la dette à leurs parents. Et une dame raconte qu'elle a été appelée pour lui dire qu'elle devait avoir honte à son âge de ne pas payer ses dettes et qu'ils allaient appeler tous ses voisins.
Et c'est pas légal, ça ?
Non, pas du tout. Hein. Le harcèlement est puni par la loi, ça peut même être qualifié d'extorsion, puni de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Les appels malveillants peuvent donner lieu à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Tout ça pour vous dire que vous pouvez leur répondre par courrier, en indiquant que leurs méthodes sont inadmissibles et qu'elles peuvent être réprimées pénalement et que vous allez déposer plainte s'ils ne cessent pas leur harcèlement. Ça peut les calmer quand même. Hein.
Quels sont nos droits ?
Alors la première chose, c'est ça. Demander à avoir accès à l'ensemble des pièces. Parce que si la société de recouvrement ne peut pas justifier que la dette est bien due et si elle n'arrive pas à prouver que c'est bien le bon montant qui vous est réclamé, là, vous n'avez pas à la payer. Après, si la dette est bien due, vous pouvez demander le paiement plusieurs fois, souvent ils acceptent. Mais attention, parfois c'est pervers. Ils peuvent vous proposer des paiements échelonnés ou des remises. Et si vous acceptez de payer, cela revient à accepter et donc à reconnaître l'existence d'une dette, même si elle est prescrite. Ça va faire ressusciter la dette. Donc ne payez pas.
Bon, on va se retrouver dans un instant parce que vous nous dites ne payez pas, mais qu'est-ce qu'on risque justement ? Si on refuse de payer, je pense que beaucoup sont vraiment à notre écoute. On parle donc de sociétés de recouvrement et puis on parlera aussi de sujets qui sont très intéressants en termes de consommation. Les labels alimentaires, comment s'y retrouver parce qu'on est un petit peu paumé. Et puis Grégory Lecomte va nous faire cuire un bon petit poulet en fin d'émission. À tout de suite.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Merci pour votre fidélité à Nous voilà bien. Dans un instant, Harry Christodoulou nous fera un point sur les labels alimentaires. Vous êtes paumé ? Eh bien, vous aurez les réponses. Et puis, Grégory Lecomte, il va nous faire saliver avec ses recettes de poulet. Mais pour l'heure, Armelle Lévy nous rejoint. Armelle Lévy, merci d'être avec nous. On s'est quitté sur cette phrase, ne payez pas, puisqu'on parle aujourd'hui des sociétés de recouvrement. Ok, d'accord. Néanmoins, qu'est-ce qu'on risque si on refuse de payer ?
Alors, vous avez le droit de contester la dette, mais si vous ne payez pas et que la société de recouvrement vous emmène en justice, là, vous risquez une saisie sur votre compte bancaire ou une saisie de vos biens pour vous obliger à payer. Mais c'est rarement le cas. Les crédits qui ont été rachetés sont souvent des crédits très anciens qui ne peuvent pas être démontrés, qui ne peuvent pas être prouvés. Donc, ils ne peuvent plus être réclamés. C'est pour ça, vous devez demander à la société de recouvrement toutes les pièces. Et si le crédit est ancien, c'est-à-dire s'il a plus de 2 ans, vous ne risquez rien, pas de souci.
En tout cas, ce marché de la revente de crédit, il est en plein essor. Hein. En ce moment, on en entend beaucoup parler. Comment ça se fait ?
Eh bien, c'est encouragé par la Commission européenne avec une nouvelle réglementation. L'objectif, c'est de dire aux banques, mettez-vous à 100% sur la relance de l'économie et donc prêtez à l'économie réelle. En gros, débarrassez-vous de tous vos crédits toxiques et passez moins de temps à gérer vos impayés. Donc aujourd'hui, l'Union européenne encourage la revente des crédits à des sociétés de recouvrement, parfois sans foi ni loi, qui les rachètent pas cher et qui vont faire du forcing chez les consommateurs pour en récupérer le paiement. Donc l'an dernier, les impayés pour les crédits, rien qu'en France, ont atteint 22 milliards d'euros. Et parmi les crédits impayés, seulement 30% font l'objet d'un rééchelonnement de leur banque. Donc franchement, c'est ça. Plutôt que de jeter en pâture les consommateurs à des sociétés de recouvrement en méthode contestable, l'Union européenne aurait mieux fait de dire aux banques, au contraire, de mieux accompagner leurs clients en difficulté, de rééchelonner la dette, d'étaler les paiements pour baisser les échéances et de cesser de distribuer de nouveaux crédits à ceux qui ne peuvent plus les rembourser.
Bah voilà, les banques ont des responsabilités
quand
évidemment,
même, hein,
qui sont d'accompagner forcément leurs clients.
Plutôt que se débarrasser
aussi
des clients qui ne payent pas.
C'est et puis qui sont en difficulté.
Exactement.
Quand on ne peut pas payer, c'est qu'on est en difficulté. Merci, c'était super éclairant. Mais vraiment, merci beaucoup Armel Lévy d'avoir été avec nous. Je vais vous laisser rejoindre la rédaction, hein, puisque
oui,
vous travaillez au service éco et conso d'RTL.
Avec un bon petit poulet pour midi, alors.
Alors, j'allais vous dire, vous avez vu comme ça sent bon ?
J'adore
hein
ça.
C'est Ligori Lecomte là, qui prépare du poulet. Mais pour l'heure, on se retrouve dans un instant pour parler des labels alimentaires sur RTL. Je vous embrasse, Armel.
Moi aussi.
Christophe Willem, ce matin, pour introduire, si je puis dire, cette nouvelle séquence avec Harry Christodoulou. Bonjour Harry, soyez le bienvenu sur RTL.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de SIGA. SIGA, c'est une application qui évalue le niveau de transformation des produits. Comment ça se passe d'ailleurs en fait ? Je scanne le code barre des produits et tout de suite SIGA va me donner les infos dont j'ai besoin ?
Oui, tout à fait. Alors SIGA établit une méthodologie scientifique qui permet d'évaluer les aliments en fonction de leur niveau de transformation. Donc à partir des informations légales présentées sur le produit, notamment la liste d'ingrédients, on utilise cette méthodologie pour scorer les aliments et toutes ces évaluations se retrouvent dans une application avec laquelle on peut scanner les produits dans les rayons ou accéder directement à un catalogue de produits rankés de la meilleure note jusqu'à la moins intéressante.
Très bien, en sachant qu'évidemment, moins un produit est transformé, meilleur il est. Est-ce qu'il existe beaucoup de labels dans le domaine de l'alimentation, Harry ?
Alors oui, aujourd'hui, il y a un certain nombre de labels qui existent dans le domaine alimentaire, avec différents formats de labels. En revanche, certains labels qui vont être portés notamment par l'État, donc des labels dits officiels, et des labels qui vont être, quant à eux, portés par des organismes privés ou des associations qui réunissent certains producteurs.
Dans lesquels faut-il avoir le plus confiance, selon vous ?
Aujourd'hui, la confiance, elle va porter surtout sur le cahier des charges, en réalité, qui est mis en œuvre. C'est-à-dire que derrière chaque label, on a un cahier des charges qui va spécifier des méthodologies de production, des lieux de production et ou de transformation. Donc, pour avoir confiance dans un label, il faut effectivement se reporter à ses cahiers des charges, comprendre sur quel axe travaille le label et peut-être aussi, sans doute, se reporter davantage sur les labels officiels qui sont portés au niveau européen ou au niveau français par le ministère de l'Agriculture.
Et quelles sont les garanties, justement, qu'ils offrent, ces labels ?
Alors, on a différents types de labels. On va avoir, donc, pour ce qui est des labels officiels, des labels qui vont porter sur des caractéristiques, méthodologies de production, savoir-faire mis en œuvre et ou lieu de production. Donc, c'est ce qui va correspondre aux AOP, IGP, STG. Et on va avoir aussi des labels qui vont porter sur des qualités supérieures du produit en termes organoleptiques. On va aussi avoir d'autres labels qui vont porter sur des aspects environnementaux ou bien-être animal. C'est notamment le cas du label bio.
Et comment un produit, justement, obtient-il un label ? Il doit être éligible à ce label.
Exactement. Alors, pour obtenir un label, pour ce qui va être des labels dits officiels, donc portés par les autorités européennes ou françaises, il faut être conforme à un certain cahier des charges et ensuite appeler un certificateur qui va venir auditer les méthodologies mises en œuvre de production ou de transformation pour ensuite pouvoir utiliser le label. Pour ce qui est des labels non officiels portés par des organismes privés ou des associations, là, il va y avoir différents formats. Soit c'est l'association qui va avoir elle-même des personnes pour venir auditer les personnes qui adhéreraient à l'association en vue d'obtenir le label, ou ça peut aussi être fait par des organismes extérieurs. Donc les labels privés, il y a adhésion à une association et ensuite, il faut se conformer au cahier des charges, se faire auditer pour obtenir ce label et pouvoir l'afficher en pack.
Mais alors, qui les délivre, ces labels ?
Alors, ils sont nombreux. Pour ce qui va être des labels portés par l'État, il y a des organismes certificateurs agréés qui vont venir faire des audits pour garantir la possibilité d'utiliser le label par l'opérateur. Pour ce qui est des labels privés, on va avoir la même opération de certification. Alors parfois, en revanche, ça peut être mené en propre par des personnes qui sont dans l'association. En revanche, il faut adhérer à cette association avant de pouvoir se faire certifier.
Et quel degré de confiance leur accordent les consommateurs ? Parce que parfois, on en a plein des labels. Alors, on a l'impression à chaque fois que ce sont des médailles, mais on sait qu'il y a des médailles plus en toc et d'autres plus en or, je dirais. Le degré de confiance que leur accordent les consommateurs, c'est quoi ?
Sur les labels, il y a une bonne notoriété au niveau des principaux labels. Il y a aussi un bon niveau de confiance. En revanche, on pourrait améliorer ce niveau de confiance sans doute en faisant plus de pédagogie sur l'aspect qualitatif qui est garanti ou renvoyé par ce label. Et vous avez raison, aujourd'hui, on va retrouver sur les packagings un certain nombre de mentions, mais qui ne sont pas toutes des labels. Donc, certaines mentions vont être ajoutées en termes marketing, mais aujourd'hui ne correspondent pas à des labels. Donc, pour augmenter ce taux de confiance, on veillera à faire davantage de pédagogie aux consommateurs sur les labels principaux, les axes de qualité qu'ils recouvrent, pour augmenter cette confiance, oui.
Bon, on va se retrouver dans un instant, parce qu'on a encore plein de questions à vous poser. Hein, parce que est-ce que tous les labels se valent ? Il y en a qui sont peut-être en chocolat, d'autres qui sont peut-être un petit peu plus, forcément un petit peu plus sérieux. Comment identifier un label de qualité ? Ce sera dans un instant avec vous, Harry, sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Nous voilà bien, Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Dans un instant, on va parler du poulet. Bah oui, le poulet dominical. Vous l'avez vécu, c'est le poulet frites du dimanche en famille. On en parlera avec Ligori Lecomte. Mais pour l'heure, on fait un point sur les labels avec Harry Christodoulou. Harry, qui est fondateur de Siga, une application qui évalue le niveau de transformation des produits. Harry, on a parlé des labels, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Quels sont justement ces fameux labels les plus connus ? Je pense au label rouge, je pense au label agriculture biologique. Quels sont ceux vraiment dans lesquels on peut avoir confiance ?
Il y a des labels qui effectivement sont davantage reconnus par les consommateurs, et vous avez raison, ça va porter sur le label rouge, sur le label biologique, mais également aussi sur les AOP et IGP, qui je pense sont bien reconnus par les consommateurs.
Aujourd'hui, appellation d'origine contrôlée, IGP, c'est quoi ?
Indication géographique protégée.
D'accord.
Et donc la différence qu'on va avoir entre ces deux labels, alors l'AOC est français, son équivalent européen est l'AOP, l'IGP est également européen. La différence qu'on a entre AOP et IGP, c'est qu'on a une plus grande garantie sur l'AOP. Sur l'AOP, on doit avoir la production, la transformation qui est faite sur un même territoire. Alors qu'au niveau de l'IGP, ça peut être une seule de ces étapes, par exemple, qui va être sur un territoire.
Mais un label, ça peut parfois être trompeur, non ? Ça peut nous induire en erreur.
Ça peut induire en erreur si la compréhension de l'information qui est renvoyée par le label est mauvaise. Donc, on revient en réalité à cette idée de pédagogie sur les labels. Aujourd'hui, les labels sont extrêmement stricts dans leur cahier des charges et sur l'information qu'ils renvoient. En revanche, effectivement, si on achète une AOP en pensant que c'est meilleur pour sa santé, aujourd'hui, ça n'est pas ce que couvre a priori l'AOP.
Mais alors justement, le potentiel santé des aliments, il est pris en compte dans un label ? Pas dans tous, visiblement.
Pas dans tous, ça va dépendre des labels. Aujourd'hui, sur les labels principaux que l'on a évoqués, on n'a pas a priori de garantie de meilleur potentiel santé au cahier des charges. En revanche, nous, on observe qu'effectivement, les fromages qui sont sous AOP ou EGP, en général, sont de meilleure composition. ont un meilleur potentiel santé que des fromages qui ne les présenteraient pas et dans lesquels on va retrouver parfois certains ingrédients qui peuvent se révéler problématiques. Oui.
Donc en fait, tous les labels ne se valent pas. C'est ce que j'entends tout à l'heure. Je parlais un peu en provoquant de labels en chocolat. On est bien d'accord que voilà, il y a des labels qui sont moins sérieux, peut-être. Enfin, je ne sais pas, moins rigoureux ou qui ont moins d'importance que d'autres. Comment est-ce qu'on identifie un label de qualité ?
Il faudra arriver à faire la distinction et c'est une problématique aujourd'hui que l'on a quand on parle de labels. Normalement, les labels ne devraient être utilisé que pour les labels officiels. Pour les autres éléments, on va parler de marque privée, de mentions sur les packaging, marketing. Il faudrait pouvoir distinguer ceci puisqu'effectivement, on va avoir une différence peut-être de sérieux dans l'édition des cahiers des charges. Maintenant, il y a aussi des labels qui ne sont pas officiels, qui présentent des cahiers des charges extrêmement sérieux et des garanties très fortes sur les axes qui sont couverts par le label. Quand on revient à la valeur, ça va vraiment dépendre de l'axe que l'on regarde. Donc si on parle de valeur santé, effectivement, bien des labels aujourd'hui n'ont pas de valeur santé. En revanche, ils portent une valeur qui est l'axe sur lequel ils travaillent. Est-ce que je travaille sur une origine, sur une méthode de production, sur une méthode de transformation ? Ça rend compte d'une certaine qualité, d'une valeur, donc, mais ça n'est pas la valeur santé nécessairement. Celle qui nous intéresse chez SIGA.
En revanche, juste pour ceux qui nous écoutent, là on va être concret. Quels sont les labels vraiment qui sont des labels de confiance ?
Je parlerai des labels officiels, AOP, IGP, STG, label rouge, label bio, sur lesquels effectivement on peut avoir extrêmement confiance. Et ensuite, il y a d'autres labels qui aujourd'hui ne sont pas officiels, mais qui sont tout à fait sérieux, reconnus par les opérateurs économiques, reconnus aussi par certaines associations de consommateurs. On pensera à des labels qui portent sur la pêche durable ou sur l'alimentation animale type bleu blanc-cœur, qui sont extrêmement sérieux sur les axes que eux aujourd'hui couvrent.
L'étiquette Nutri-Score, ça peut être un bon indicateur de la qualité d'un produit ?
Le Nutri-Score, c'est un score qui va de vert à rouge, de A à E, et qui permet de rendre compte de la qualité nutritionnelle d'un aliment. Donc on va aller observer ses taux de gras, sucre, sel, fibres, calories. Et avec une formule mathématique, on vient rendre compte du fait que ce produit va plutôt se situer au-dessus ou sous la moyenne de ce que devraient être les apports nutritionnels d'un régime favorable pour la santé. La problématique, c'est que cette qualité nutritionnelle aujourd'hui ne rend peut-être pas toujours compte de la qualité du potentiel santé de l'aliment observé. Je m'explique, bien des aliments aujourd'hui vont se retrouver sous la moyenne du régime, des corps gras, des éléments sucrés, mais pourtant vont être des éléments essentiels pour l'adoption de régimes alimentaires préventifs pour la santé, certaines huiles, certains fromages. À l'inverse, on va avoir bien des aliments, à peu près la moitié de ceux qui sont présentés favorables par le Nutri-Score, qui malheureusement aujourd'hui se révèlent être ultra transformés. Donc si on a un intérêt à diminuer les aliments qui aujourd'hui sont présentés défavorables, c'est démontré scientifiquement, on a plus de doutes sur l'intérêt à favoriser la consommation des aliments qui sont présentés plus favorables nutritionnellement par le Nutri-Score.
Eh bien, merci pour ce cours sur les labels, Harry Christodoulou. C'était super intéressant. Vous avez forcément éclairé nos auditeurs. Je rappelle qu'ils peuvent télécharger l'appli SIGA qui évalue le niveau de transformation de nos produits. Merci, Harry. Merci et beaucoup. Un bon poulet, c'est un poulet label rouge ?
Un meilleur poulet est un poulet label rouge. Maintenant, un meilleur poulet sera sans doute label rouge et peut-être bio aussi.
Ah, et bien justement, on va en parler du poulet avec Liguri Lecomte qui nous rejoint dans un instant. Merci Harry.
Je vous remercie.
Voilà, du poulet. Bonjour Liguri Lecomte. Et ça donne envie de danser. C'est du Sacha Distel. On s'est dit que c'était notre façon de vous accueillir sur cette antenne aujourd'hui. Vous êtes chef du site cuisineaz.com et auteur culinaire. Je voulais quand même vous dire, mon cher Liguri Lecomte, que je passe mes week-ends avec vous. Hein, parce que je passe mes week-ends à faire la cuisine sur le site.
Ah bah oui, écoutez, c'est parfait. Ah bah écoutez, j'en suis ravi.
Bah non, mais il fallait quand même que je vous le dise.
Une invitée de choix, c'est parfait.
Dites-moi, bah oui, mais une cuisinière parmi toutes les cuisinières et parmi tous les cuisiniers qui donc consultent votre site et vos recettes, Liguri. Le poulet, donc, on le choisit label rouge et bio, comme nous y invitait Harry il y a un instant.
Ah bah écoutez, oui, ça serait parfait. Hein. Ça serait, si tout le monde faisait comme ça, on en sortirait grandi, ça c'est sûr.
La France, c'est un peu le pays par excellence du poulet, non ?
Vous savez, quand on a le coq comme symbole, c'est assez évident. Il faut mettre le poulet à l'honneur. C'est assez colossal, hein. Chaque habitant en France, on mange 25 kilos de poulet par an. Donc raison de plus pour le manger mieux, comme vous l'avez dit, avec des labels.
Ah, dis donc, c'est dingue. Je parlais toujours du poulet dominical. Hein. C'est vraiment le plat familial par excellence. Il existe différentes variétés de poulet ?
Alors oui, alors là, vous avez plein de façons d'avoir ces classifications. Tout d'abord, la chair, elle peut être blanche, jaune. Le plumage peut être différent. Les pattes aussi, ça peut être de couleurs différentes. Le cou aussi, hein, emplumé ou nu. En fait, il y a quasiment 200 variétés ou races différentes. Elles sont toutes issues finalement d'un même poulet d'origine sud-asiatique qu'on appelle le coq doré Bankiva, qui a environ 4000 ans. Donc oui, voilà, ils sont tous.
Et c'est lui qui a fait tous ces petits poulets là.
Voilà, exactement. C'est autant l'homme descend du singe, mais écoutez, tous les poulets descendent de ce petit poulet là doré asiatique.
Bon, alors qu'est-ce qu'on en fait de ce poulet ? On va en parler dans un instant, les Gorilles Lecomte. Comment on le cuisine ? Je sais pas pourquoi, mais je me dis que ça va être le programme du week-end. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien. Vous sentez là cette odeur de poulet ? Poulet au four, poulet rôti. Oh, on fait des frites ce midi ? On rejoint Ligori Lecomte pour la recette.
Même les végétariens ne manqueraient ça pour rien. Personne peut être étanche au poulet du dimanche.
Mais le poulet, c'est aussi le samedi matin. Gauvin Serre sur l'antenne d'RTL avec Ligori Lecomte, chef du site cuisineaz.com. Bon, dites donc, il y a plus de 200 variétés de poulet, Ligori Lecomte. C'est dingo, parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte quand on achète notre poulet. Il est déjà plumé. On ne sait pas si effectivement il avait des plumes dans le cou ou s'il avait le cou dénudé. Enfin bon, bref, il y a plein de poulets différents, mais on ne sait jamais véritablement lequel on achète.
Non, c'est parfois précisé. Souvent poulet jaune, poulet blanc. Donc
oui,
c'est déjà une première indication que vous pouvez avoir.
Dites-moi, c'est quoi la différence entre les deux ?
Alors en fait, ça va dépendre un petit peu de ce qu'il a mangé, surtout de son alimentation.
Bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'il ait gambadé ce poulet, qu'il ait été le plus heureux possible, qu'il ait mangé de bonnes choses et évidemment que ça ne soit pas un poulet élevé en batterie. Donc idéalement, label rouge et label agriculture biologique. Le poulet, il possède les mêmes qualités nutritionnelles que n'importe quelle viande ?
C'est déjà une grosse source de protéines, hein, ça on le sait tous. Mais c'est aussi le champion de la vitamine B. Donc ça va être forcément favorable pour le cœur, pour votre système nerveux et puis pour votre organisme en général.
D'accord, ok. C'est vrai que c'est l'une des viandes les moins grasses ?
Oui, alors c'est moins calorique, mais à condition de le consommer sans la peau. Dès que, à partir du moment où vous allez consommer la peau, là forcément vous allez rattraper ce déficit en matière grasse. Donc voilà, c'est vraiment ok niveau besoin protéines, etc. sans un surplus de matière grasse si vous consommez surtout sans la peau.
Oui, parce qu'en fait tout le gras est dans la peau, mais c'est dans la peau qui est bonne aussi dans le poulet.
Ah, on est d'accord, la petite peau croustillante du dimanche midi, on se bat un peu pour l'avoir. Donc, je suis bien d'accord avec vous.
Bon, comment je le choisis, mon poulet, quand je le vois chez mon boucher ? D'ailleurs, je pense aussi à ceux qu'on achetait moi chez moi dans la ferme d'à côté. Hein. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais comment je le choisis ?
De toute façon, vous l'avez dit, hein, il y a tout d'abord les poulets qu'on appelle standards industriels, qui eux, les pauvres, sont tout serrés pendant un mois et demi en batterie. Et puis, ils n'ont jamais vu vraiment la lumière du jour. Voilà. Et ça finit. Vous savez qu'il y a quand même 8 poulets sur 10 qui sont vendus, qui sont issus de cet élevage-là. Et puis après, alors oui, donc vous avez le poulet label rouge qui va consommer plus de céréales. Il aura vécu au moins 80 jours. Le poulet fermier label rouge qui, lui, est vraiment en semi-liberté avec toutes les IGP dont vous avez parlé juste avant. Et puis après, vous avez la volaille de Bresse, là, l'AOC, lui qui a vécu en poulailler, en liberté, qui a pu courir tout le long de sa vie et qui est bien dodu, bien musclé. Et donc, bah, forcément, les prix vont aussi en montant, mais voilà, mais la qualité aussi.
Mais alors, ça coûte cher un poulet entier ? Un bon poulet entier ?
Un bon poulet entier, ça va être entre 8 et 15 euros le kilo en moyenne. Forcément, après, ce que j'aime bien dire aux gens, souvent, c'est d'en manger moins, mais d'en manger mieux. Donc forcément, un poulet fermier, vous allez pouvoir payer parfois 30 euros la pièce, hein, parce qu'il va faire un peu plus de 2 kilos. Mangez-en moins, mangez-en mieux.
Ça se cuisine facilement, en fait.
Ah oui, bien sûr, il n'y a rien de plus simple. Hein. C'est aussi ça qui en fait une des viandes préférées des Français, c'est qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Et puis, bah, comme on l'évoque depuis tout à l'heure, hein, le poulet rôti du dimanche, ce n'est pas la recette la plus compliquée. C'est une des premières choses qu'on peut faire, même quand on se lance dans la cuisine. Un bon poulet rôti, ça fait toujours plaisir à tout le monde. Donc, c'est jamais décevant et déceptif à cuisiner.
D'accord. Le meilleur morceau pour vous ?
Ah, alors on parle souvent du solilès, vous savez.
Alors, mais
ça,
oui.
C'est un morceau que j'aime particulièrement, mais alors moi ce que j'aime aussi c'est l'aiguillette, vous voyez, c'est un petit peu le filet mignon du poulet, ce petit morceau vraiment sous blanc. Moi c'était aussi pour ça que je réclamais du blanc le dimanche midi, justement pour me délecter de ce petit morceau-là sous le filet.
Alors le solilès, il faut qu'on précise à ceux qui nous écoutent, hein, peut-être que certains ne connaissent pas d'ailleurs, ça s'écrit le solilès comme l'imbécile l'a laissé, hein, c'est un peu
voilà,
ça.
Voilà, tout à fait.
Et donc c'est une petite partie que l'on retrouve, si je ne dis pas de bêtises, parce que moi je le cherche toujours, sur le dos du poulet.
Tout à fait.
Au niveau des épaules.
Voilà. Et en fait, vous l'enlevez soit avec vos doigts, soit avec une cuillère. Ça part tout seul si le poulet est bien cuit. Et alors surtout, là, ce serait sacrilège de mettre un coup de couteau dedans ou de le laisser sur la carcasse.
C'est d'une tendreté incroyable. Parce qu'effectivement, pour la viande, on parle de tendreté. Moi, j'adore les ailes. Et vous savez qu'il y a des familles. Hein. Il y a la famille du blanc et il y a la famille des ailes, des cuisses.
Ouais,
il y a ceux qui ont besoin
exactement.
De manger le blanc très propre et il y a ceux qui ont besoin de grignoter, quoi. Qui ont besoin de manger avec les doigts.
Il faut
espérer
dans une famille, il y a un petit peu de chaque, vous voyez, comme ça, tout le monde est content.
Exactement. Bon, allez, revenons à la cuisine. Comment est-ce qu'on réussit sa cuisson d'un poulet rôti ?
Alors d'abord, vous allez, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est de le masser un petit peu avec de l'huile d'olive ou du beurre.
Ouais.
Vous allez bien saler, poivrer dedans et dehors. C'est important parce que souvent les gens en mettent un petit peu au-dessus, mais ils ne sonnent pas assez la carcasse. Bon, vraiment, dedans, vous mettez un bouquet garni, du sel, du poivre. C'est autant important que d'en mettre un petit peu dehors. Après, ce que je fais, c'est que je l'enfourne dans un four chaud à 200 degrés et je vais le tourner toutes les 20 minutes environ.
Oui.
C'est-à-dire que je vais le poser sur une cuisse. Ensuite, au bout de 20 minutes, je vais le retourner, je vais le mettre sur une autre cuisse. Après, je vais le remettre sur le dos en l'arrosant régulièrement. Ça, c'est l'autre petite chose. Mais vraiment, toujours le faire pivoter. Un petit peu comme si vous aviez
une
rôtissoire à la maison. Vous voyez, et puis dans le four, en fait, ça chauffe pas de la même façon. À gauche ou à droite, devant et derrière, vous voyez bien sur une quiche ou un gâteau. Donc là, c'est pareil que le poulet, il faut vraiment le faire tourner pour qu'il ne cuise pas vraiment de la même façon partout. Et du coup, cette cuisse qu'on disait plus longue à cuire, le fait de la mettre en contact avec votre plat, ça va cuire aussi plus vite. Donc si vous ne mettez que le dos dessus, c'est un petit peu dommage, et vous allez avoir un petit écart de cuisson. Et puis après, j'allais vous dire, pour contrôler s'il est cuit, une petite aiguille dans le gras de cuisse, ça doit ressortir chaud. Bien, si vous piquez sur le flanc, vous avez ce petit jus translucide qui va sortir. Vous voyez, il ne doit pas y avoir de sang. Mais une fois que vous avez ça, c'est que votre poulet est cuit.
Et alors, donc, petit truc, moi, qu'avait ma grand-mère, vous parlez-vous de masser le poulet avec de l'huile. Ma grand-mère le beurrait, bon, j'ai été élevée en Normandie, hein, mettait des gros morceaux de beurre sur la peau, parce que c'est comme ça que la peau devient craquante, hein, pour ceux qui nous écoutent, on est d'accord. Et moi, j'en ai rajouté, c'est que je glisse parfois soit de l'ail de temps en temps, et parfois aussi des tranches de chorizo sous la peau. Que l'on glisse et là tout à coup vous avez le gras du chorizo qui vient en rajouter à la tendreté de la viande blanche et ça c'est ma recette.
Ah mais vous croyez pas ce qu'il vient de dire parce que j'étais de la même façon avec plutôt du beurre que de l'huile sur le poulet et on en parlera juste après avec la recette mais voilà vous êtes en train de piquer la vedette sur ma petite recette mais le petit beurre sous la peau c'est une des petites astuces que je peux vous donner juste après ouais justement.
Et moi ce sont des tranches de chorizo parce qu'en fait faut vraiment dire que la chair absorbe ce qu'il y a et ça c'est ce qu'il y a d'extra ordinaire avec le poulet. Bon, on y va, je vais arrêter de vous voler la vedette parce que c'est vous le chef. Quelles sont les recettes du jour, Ligorie de Comte ?
Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer du coup trois petites recettes, comme ça, il y en aura vraiment pour tous les goûts et ceux qui aiment le poulet. Tout d'abord, un petit poulet aux épices, on fera rôti, mais vraiment aux épices pour inspirer un petit peu tout le monde. Ensuite, une recette rapide de poulet frit, et puis un petit poulet soja et sésame.
Très bien, on vous écoute.
Alors, donc tout d'abord, je vais revenir sur ce petit poulet rôti avec la technique sous la peau. Hein. Mais moi, c'est un beurre en fait qu'on va laisser devenir pommade et dans lequel on va rajouter des épices. Moi, là, je mets un petit peu de 4 épices, je mets de la vanille aussi régulièrement, un petit peu de cannelle pour ceux qui aiment ou de la badiane en poudre. Vous allez mélanger tout ça. Et en fait, comme vous l'avez si bien expliqué, comme avec vos tranches de chorizo, vous allez prendre un petit peu de beurre et vous allez le glisser sous la peau du poulet. Le masser, vous pouvez aussi le masser un petit peu au-dessus, mais c'est important de le mettre dedans. Comme vous l'avez dit, ça va vraiment imprégner les chairs. Tout ce que vous allez lui donner, il va le prendre. Si vous préférez mettre aussi une petite feuille de laurier ou autre chose, c'est possible. Mais vraiment, le glisser sous la peau, comme je disais tout à l'heure, hein, une fois qu'il sera cuit, cette petite peau croustillante et parfumée, ça va être vraiment un vrai régal, elle sera bien dorée. Ensuite, pour le poulet frit, ça ne sert à rien d'aller l'acheter dans un magasin de restauration rapide. Vous pouvez le faire très très bien à la maison avec par exemple, soit des petites aiguillettes, soit des blancs de poulet que vous allez couper en lamelles et que vous allez mettre dans la farine, ensuite dans de l'œuf battu et ensuite dans des cornflakes que vous aurez un petit peu concassés. Des cornflakes non sucrés, hein, forcément. Et puis, une fois que vous avez fait ça, il ne vous restera plus qu'à les plonger une bonne minute dans une friteuse à 180 degrés environ. Donc ça sera parfait. Puis vous salez hop, à la sortie. C'est ma petite recette de poulet, soja et sésame. Alors ça, c'est valable à la poêle ou encore mieux au barbecue quand les, là, je vois que les beaux jours arrivent, vous voyez. Donc, ça peut être une petite idée aussi.
Attendez que ça dure.
Pour bientôt, oui, on croise les doigts.
On peut essayer ce week-end.
Je vais essayer de ne pas nous porter la poisse. Mais donc, sinon, ça marche aussi à la poêle. Hein. Vraiment, vous faites mariner votre poulet dans la sauce soja. En fait, l'équivalent, c'est deux volumes de sauce soja pour un volume d'huile de sésame et un volume de miel. Vous faites macérer tout ça plusieurs heures. Ensuite, à la sortie, vous mettrez quelques petites graines de sésame et vous les faites cuire assez rapidement. Hein. On l'a dit tout à l'heure, c'est un morceau qui cuit rapidement. C'est les trois petites recettes que je peux vous proposer aujourd'hui.
Laisse tomber. Trop bien. Tout ça avec une bonne moutarde.
Exactement. Voilà.
Et après, c'est super. Dernière chose, les pommes de terre, on peut les cuire directement avec le poulet dans le plat.
Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout
voilà.
À fait.
Et comment on fait pour qu'elles caramélisent?
Alors, en fait, moi, ce que je peux vous conseiller déjà, c'est aussi le choix de la pomme de terre. Je prends plutôt des pommes de terre à chair ferme, puisqu'on l'a dit, en fonction de la taille aussi de votre poulet, il va pouvoir rester parfois une heure, un peu plus dans le four. Donc, petite pomme de terre chair ferme. Et puis, en fait, si vous mettez beaucoup d'eau, ça va rendre beaucoup de jus et elles ne vont pas trop colorer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les cuire au début avec votre poulet. Et puis, s'il rend un petit peu trop de jus, écoutez, vous les enlevez ou bien vous les mettez sur un plat en dessous, en fait, sur votre four.
Très bien. Merci, les Gorilles Lecomte. Je vais tout de suite courir après le poulet.
Bah, moi aussi. Et puis, je viens demain pour déguster votre poulet au chorizo, sans problème.
Mais avec une grande joie. Merci, les Gorilles Lecomte, d'avoir accepté
merci
notre invitation ce samedi matin. Vous êtes venu pour ça, donc je vous l'ai fait.
Bien sûr,
ces fameux bisous du samedi. Ça ne nous a jamais autant fait de bien d'entendre la voix de Philippe Catherine alors que nous sommes privés de bisous en ce moment. Je rappelle cuisineaz.com qui peut nous accompagner pendant tout le week-end. Salut Ligori, à bientôt.
À bientôt.
Si vous n'avez pas tout retenu de cette émission, rendez-vous sur l'appli RTL pour le replay et sur nos réseaux sociaux pour les recettes. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, votre magazine du partage et de la réflexion. Et à la semaine prochaine de 9h15 à 10h pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous. Passez un bon week-end. À l'écoute d'RTL, bien sûr. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.